Saint Bertrand de Comminges, qui est fêté le 16 octobre et qui vécut de 1040 à 1123 en Aquitaine. Bertrand de Comminges fut un évêque de très fervente foi, bienfaiteur temporel et spirituel de son peuple, énergique, intrépide et plein d'amour. Bertrand de Comminges fut canonisé en l'an 1220 par le pape Honorius III. C'est dans le château-forteresse de l'île en Jourdain, à mi-distance entre les villes de Toulouse et Auch, à 8 lieues à l'ouest de Toulouse et à 10 lieues à l'est de Auch, que naquit en l'an 1040 le fils du haut baron Hatton Raymond, seigneur de toute cette région du Jourdain, et de dame Gervaise Taillefer, laquelle noble dame était fille du puissant comte de Toulouse, le comte Guillaume III de Toulouse, et sœur de la reine Constance, épouse elle-même du roi Robert, surnommé le Pieux, roi de France durant 35 années, c'est-à-dire depuis la mort de son père, le très déterminé et excellent administrateur Hugues Capet, et mort maintenant le roi Robert, dit le Pieux, depuis 9 années, depuis 1031, depuis donc 9 ans exactement, lors de la naissance du jeune Bertrand, au château de l'île en Jourdain. La propre tante du petit Bertrand, la reine Constance, n'avait pas rendu très heureux le roi Robert. Et pourtant ce prince était doux, d'un caractère conciliant et amène, pacifique par surcroît, et détestant les querelles constantes qui agitaient les grands vassaux entre eux, ainsi que de très nombreux possesseurs de fiefs, seigneurs de tout lignage. Pour le moindre motif d'intérêt, souvent fort médiocre et contestable, lesquelles querelles se concluait le plus souvent par des chevauchées armées et furieuses rencontres où l'on bataillait sauvagement, faisant ainsi, pour des prétextes légers et qui eussent pu trouver règlement, accommodassement, négociation, pour peu que le goût de ces violences ait fait place à davantage de raison. Ces batailles petites et grandes, perpétuellement renaissantes, était très meurtrière. On s'y donnait en effet force orion et grands coups d'épée, de lance et de masse d'armes. Les têtes se fendaient, les bras et jambes s'y cassaient, malgré les aumes, jambières et cottes de maille. Les veuves se multipliaient et les orphelins en aspiraient vengeance. Tout cela pour de trop futiles motifs. Et quant aux villageois, et aux serfs et à leurs familles, dans les hameaux, ils payaient bien cher ces équipées furibondes qui ravageaient leurs champs en cavalcades et tourbillons guerriers. Les cultures en pâtissaient durement, et parfois, en représailles ou dépit, il était mis feu, on incendiait les granges et même les masures qui étaient fiefs de l'adversaire. Grande misère et malheur étaient ainsi trop souvent le lot des petites gens, du fait de l'excessive irritabilité des gens de guerre, hommes d'armes, féaux de tout rang, qui, à tout propos, prenant goût à l'ivresse des chevauchés, les prises d'assaut, les engagements violents et meurtriers, dans les vibrantes sonneries exaltantes des buccins et l'envolée des oriflammes, se jetaient les uns sur les autres, sans aucun ménagement pour les pacifiques voisins de ces brutalités. Aussi. Et ceci se passa l'année même qui suivit la naissance du jeune Bertrand, en la forteresse de l'île Jourdain, en l'année donc 1041. Les évêques de France et d'Europe, justement très alarmés par cette situation, aussi injuste que dangereuse partout répandue, aussi injuste et détestable que dangereuse, destructrice de vie et de biens, tant pour les familles seigneuriales que pour la foule inoffensive des serfs et des villageois, les évêques convinrent qu'il convenait d'instituer sans tarder et d'imposer de toute l'influence de leur autorité ecclésiale des trêves. Et ceci sous le nom très suggestif de l'appel aux consciences des chrétiens fidèles, sous le nom de trêve de Dieu. Dénomination impressionnante, couvrant, désignant toutes les diverses trêves à des dates bien précises et connues de tous dans le cours des semaines et des mois de l'année.